Vous écoutez, on lit pour vous.
Quand un citoyen a plus de pif qu'un ministère. Un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 16 mai 2026 dans La Presse. On n'était pas au bout de nos surprises dans l'affaire navrante du sirop d'érable falsifié. Radio-Canada a dévoilé que le ministère de l'Agriculture avait reçu, il y a un an, la plainte d'un citoyen dont les papilles gustatives sont plus efficaces que les mécanismes de contrôle du gouvernement. Dès qu'il a goûté son sirop, le Montréalais Patrick Matt a détecté un problème. Il a écrit à l'association qui représente les producteurs acéricoles du Québec et au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, le MAPAC. Il a fait son devoir de citoyen, alors que d'autres ne se seraient pas donné tout ce mal. C'était en mars 2025. Il a pris son clavier et pondu ceci. « C'est le pire sirop d'érable que j'ai goûté de ma vie. Il s'agit sans aucun doute d'une contrefaçon. Je suis absolument certain que ce sirop est un mix de sirop d'érable et de glucose-fructose ou autre. De la fraude à 100%, j'en suis certain. » Le ministère a fait ce qu'il avait à faire. Il a acheté 3 conserves de sirop d'érable dans le supermarché de M. Matt. Jusque-là, on est rassuré. Mais après, ça se gâte. Le MAPAC a testé la couleur, le goût et le taux de sucre, mais il ne s'est pas interrogé sur la pureté du produit, alors que c'était précisément le motif de la plainte, la question essentielle. Il s'avère que le lot, analysé un an plus tard par l'émission Enquête, était exactement le même et qu'il était coupé avec environ 50% de sucre de canne. Le chien de garde s'est fait dire quoi regarder, mais il a choisi de ne pas ouvrir les yeux. On ne lui demandait pourtant pas de chercher une aiguille dans une botte de foin. Le plus troublant, c'est qu'il refuse d'expliquer ce qui s'est passé. Le MAPAC a dit au journaliste Gaétan Pouliot qu'il ne pouvait pas commenter un dossier particulier. Quand j'ai demandé au porte-parole Johan Dallaire-Boily de m'expliquer sa réponse, il m'a résumé ça ainsi. On ne veut pas compromettre d'éventuelles suites administratives ou judiciaires. Le ministère est en train de bâtir la preuve. Avouez que cet argument fourre-tout est drôlement pratique pour protéger son image et ne pas admettre ses torts. On demande au ministère de rendre des comptes sur les défaillances de son processus et il se réfugie derrière une stratégie de poursuite. Si les analyses requises avaient été effectuées en 2025, on aurait certainement applaudi le MAPAC qui veille à la réputation de notre or ambré. Grâce à une plainte, il aurait pu se vanter d'avoir réussi à mettre au jour un système qui a permis à des conserves falsifiées de se rendre dans les supermarchés Métro, IGA, Provigo et Adonis. Au lieu de ça, son attitude nonchalante provoque aujourd'hui des dommages. D'abord, on se dit qu'une équipe journalistique a été plus efficace, curieuse et méticuleuse qu'un organisme public censé surveiller ce genre de choses. Ce n'est pas la première fois, direz-vous. Ensuite, les employés du ministère de l'Agriculture nuisent à l'image de la fonction publique au grand complet. Ils alimentent un cynisme déjà bien nourri à coups de sac clic, d'école en décrépitude et d'enfants échappés par la DPJ. À ce sujet, les commentaires de lecteurs sur le site de Radio-Canada sont très révélateurs. Le MAPAC nuit aussi au sirop d'érable, un aliment dans une classe à part. C'est un peu le symbole du Québec. Le gouvernement lui-même le décrit comme faisant partie de notre identité culturelle et gastronomique. Le Québec fournit 73 % de la production mondiale de sirop d'érable. En 2024, les exportations internationales de produits d'érable québécois ont totalisé 705 millions de dollars. Espérons d'ailleurs que cette affaire de sirop falsifié ne fera pas trop de bruit à l'étranger, car l'industrie acéricole risquerait d'en payer le prix. Les acheteurs aux quatre coins du monde pourraient remettre en doute la rigueur des contrôles, même si le gouvernement affirme sur son site Web que les consommateurs peuvent compter sur la pureté et la qualité du sirop québécois. Le dommage atteint aussi toute la filière. Les producteurs honnêtes qui respectent les règles doivent désormais convaincre les consommateurs que leurs produits sont purs. Dès qu'on ouvre une conserve, on se pose des questions. On doute. Le MAPAC devrait le comprendre mieux que personne et se lancer dans une campagne pour nous rassurer collectivement. Dans toute cette histoire, notre santé n'est pas en danger. Il s'agit surtout d'une fraude économique. Mais si le ministère n'a pas réussi à la détecter avec la preuve sous le nez, peut-on avoir confiance pour le reste? Le manque de transparence dans ces communications est un jeu dangereux. Dans leur cours de mathématiques, lorsque les enfants doivent répondre à un long problème du style « Martine avait 95 $ Elle a acheté 15 ballons à 2 $ et un gâteau à 25 $ Combien lui reste-t-il pour les boissons? » Ils sont évalués sur la réponse et la démarche. Ici, un an après la plainte du citoyen Patrick Matt, le MAPAC ne fournit aucune réponse satisfaisante. Et en plus, on découvre que sa démarche a sauté des étapes. Devant un tel résultat, on ne peut pas lui donner la note de passage. C'est un échec. C'était « Quand un citoyen a plus de pif qu'un ministère ». Un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 16 mai 2026 dans La Presse.
Les pros de la finance face au flot de conseils du web. Un dossier de Megan Foy, paru le 10 mai 2026 dans La Presse. Crypto-monnaie, fonds d'investissement immobilier, Infinity Banking, des Québécois se présentent maintenant dans les bureaux de leurs conseillers financiers avec une idée en tête, reproduire la stratégie d'un influenceur. Et parfois, il faut déjà réparer les pots cassés. Il faut que je répare les pots cassés. On est un peu comme le bad guy. On leur dit de se bâtir un fonds d'urgence, mais ce n'est pas intéressant. Ils veulent la richesse instantanée. De son bureau, Cynthia Laventure, conseillère multidisciplinaire et cofondatrice du groupe financier Symbiose, nous plonge dans une récente rencontre avec des clients. Imaginez une famille dont les deux parents ont un revenu combiné d'environ 80 000 $ Sur le web, un influenceur financier ou finfluenceur les convainc d'investir aussi peu que 25 000 $ dans son fonds immobilier privé sous promesse que la somme vaudra bien plus dans 10 ans. Quelle chance, pourrait penser le couple. Un rendement assuré, contrairement au placement boursier, sans devoir s'occuper de quoi que ce soit. Mais il s'agit de toutes leurs économies. Si l'un des deux conjoints perd son emploi ou doit changer sa voiture du jour au lendemain, il ne pourra pas compter sur cet investissement. « Il n'y a rien à faire, l'argent est gelé », raconte la professionnelle. Avant, la compétition qu'on avait avec nos clients, c'était le beau-frère, le collègue à la job, la mère. Mais là, maintenant, c'est l'Internet, évoque Cynthia Laventure. La presse a rejoint, le temps d'une matinée, l'un des cabinets du groupe financier Symbiose à Magog, où étaient rassemblés une quinzaine de professionnels du milieu. Là-bas, le constat est sans équivoque. Les effets des finfluenceurs se font ressentir bien au-delà de l'écran depuis la pandémie. À preuve, au Québec, 30 % des consommateurs suivent un influenceur financier, le plus souvent sur YouTube ou TikTok, a révélé en avril un premier rapport d'Options consommateurs sur la question. Moi, bien honnêtement, j'ai plus de misère à faire ma job à cause de ça. Il faut que je répare les pots cassés. Partage d'emblée Simon Van Wiereld, planificateur financier et fiscaliste de formation. Crypto-monnaie, fonds d'investissement immobilier, Infinity Banking, les exemples s'accumulent. Mais tous ont un point en commun. Le client ne débarque plus dans le bureau de son conseiller avec des questions sur ses finances, mais avec un plan très précis en tête, parfois complètement irréalisable. La question, ce n'est plus « moi, qu'est-ce que je devrais faire ?» C'est « j'ai entendu parler de ça, comment je fais pour l'avoir maintenant ?» raconte Cynthia Laventure. Plusieurs font le parallèle avec le milieu de la santé, où de plus en plus de patients tiennent mordicus à ce que Dr. Google leur a suggéré jusque dans la salle de consultation. Maître Cynthia Dutlot, professeur en droit à l'Université Laval, constate le phénomène même chez les étudiants de son cours sur la protection des épargnants. Les jeunes, ils ne font pas juste ne pas utiliser de conseils financiers. Ça va plus loin. Certains ne font plus confiance aux institutions bancaires, indique la directrice du laboratoire en droit des services financiers, LABFI. Les gens, maintenant, se sentent aptes à prendre leurs décisions et pensent qu'ils sont capables eux-mêmes, ajoute-t-elle. Un doute sur les compétences. La méfiance envers les professionnels se mêle aussi de plus en plus à la discussion, indique l'Institut de la planification financière, IPF. Souvent, ce sentiment trouve son origine dans les frais de gestion perçus par le professionnel ou la banque, explique Dior Tal, planificatrice financière à la Banque nationale et ambassadrice de la profession à l'IPF. Mais la professionnelle rappelle que l'apport du conseil est significatif. Selon une étude réalisée en 2020 par le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations, CIRANO, C-I-R-A-N-O, de Montréal, les investisseurs qui faisaient affaire avec un planificateur financier avaient accumulé 2,3 fois plus d'actifs que des investisseurs comparables non conseillés après 15 ans de relation. Par ailleurs, l'influenceur peut aussi tirer profit du fait qu'il donne des conseils en ligne, souligne Maître Dutlot. À cela s'ajoute une mécompréhension générale des différents corps de profession dans la finance, ont noté tous les intervenants interrogés par la presse. Simon Van Wiereld, planificateur financier et fiscaliste de formation, explique « Le monde a de la misère à faire la différence entre un conseiller en sécurité financière, un conseiller en épargne collective, un planificateur financier, un comptable ou un fiscaliste. » Pour monsieur et madame tout le monde, c'est pas mal la même affaire. Ah, c'est un gars des finances. C'est la même chose au bout du compte. Un client de monsieur Van Wiereld a même pris rendez-vous avec lui récemment parce qu'il avait confondu avec un influenceur financier. Déconstruire les mythes. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les recettes de succès évoquées par les finfluenceurs n'intriguent pas que la plus jeune génération. Dior Tal évoque l'histoire d'une de ses clientes à la retraite, âgée de plus de 70 ans, au profil d'investissement très prudent. Mais l'algorithme de ces réseaux sociaux l'a amené à considérer un titre extrêmement spéculatif sur les bons conseils d'un fin influenceur qui vantait le rendement. Elle me disait « Dior, je suis très intéressé par ce titre. J'aimerais l'avoir dans mon portefeuille. Qu'est-ce que je fais dans cette situation ?» se rappelle-t-elle. « Je suis obligé de contre-vérifier, de remettre les choses en contexte et de voir si elle est vraiment à l'aise avec cette décision », continue la planificatrice. Le rôle du professionnel n'est donc plus seulement d'informer et d'éduquer, mais aussi de déconstruire certaines fausses bonnes idées lorsqu'elles ne sont pas dans l'intérêt du client. « On est un peu comme le bad guy », conclut Cynthia Laventure. Vous écoutez Les pros de la finance face au flot de conseils du web, un dossier de Megan Foy paru le 10 mai 2026 dans la presse. Un encadrement en zone grise. L'autorité des marchés financiers interdit aux internautes, qu'ils soient conseillers ou pas, de prodiguer des conseils en ligne qui pourraient influencer la prise de décisions financières. Mais où tracer la ligne? Pour les professionnels de l'industrie, il s'agit d'une ère de la guerre. C'est quoi de l'information versus un conseil? Je pense que c'est la plus grande zone grise, réagit Simon Van Wereld, fiscaliste. Un rapport d'Options consommateurs évaluait pour la première fois il y a quelques semaines l'impact des finfluenceurs au Canada. Principale recommandation: illustrer clairement à l'intention du public ce qu'est un conseil en matière financière et ce qui n'en est pas. C'est ce que l'AMF a fait il y a près d'un an, en mettant en place une page web pour aider les Québécois à y voir plus clair, mais aussi pour aider les influenceurs financiers à comprendre les règles à suivre. Mais pour Maître Cynthia Duclos, professeure en droit à l'Université Laval, il est difficile d'établir à partir de quel moment une personne est influencée, peu importe le contenu de la vidéo. Elle explique que, de manière générale, les gens s'en remettent systématiquement aux conseils qu'ils reçoivent, une tendance reconnue par les tribunaux. Dans une relation un à un, si on leur recommande de prendre tel produit, ils prennent tel produit, illustre-t-elle. À cet effet, une vingtaine de finfluenceurs dont les propos ou les comportements dépassaient les limites de la loi ont été interpellés en juin dernier par l'AMF dans un effort de conscientisation. Et si, au lieu de restreindre, on permettait plutôt aux planificateurs financiers de donner des conseils généraux en ligne? C'est la piste de réflexion que lance Maître Duclos. De cette façon, il pourrait être plus facile de départager les personnes autorisées à le faire, souligne-t-elle. Pas sexé, la vulgarisation. Cynthia Laventure et Simon Van Wereld du groupe financier Symbiose font tous les deux des vidéos sur le web, un peu pour contrer la désinformation, mais surtout parce qu'ils n'ont pas le choix pour se faire connaître aujourd'hui et se démarquer de la concurrence. Le contenu de ces vidéos est principalement consacré à la vulgarisation de concepts, par exemple en expliquant les avantages du CELI ou quels sont les leviers d'accès à la propriété. Sauf que souvent, dit Cynthia Laventure, le contenu provenant d'un conseiller qui fait attention d'être conforme, c'est plate, ça attire moins. Et ils sont beaucoup plus longs. Des détails naturellement moins favorisés par l'algorithme des réseaux sociaux qui privilégie les formats courts et les phrases accrocheuses. Mais quand tu connais ça, c'est impossible que ça soit court. Il y a une limite à trop simplifier. Va même jusqu'à dire Simon Van Wereld, dont les vidéos YouTube durent parfois une vingtaine de minutes. Indiquer ses qualifications? Dans son rapport, Options consommateurs a aussi recommandé que les professionnels indiquent leurs qualifications professionnelles sur les réseaux sociaux pour aider les consommateurs. Pour Dior Tal, ambassadrice de la profession à l'Institut de la planification financière, cette transparence représente la meilleure façon d'aider les internautes à s'y retrouver. Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il y ait un freinage sur les discussions en termes de finances et on ne veut pas non plus censurer tout ce qui est liberté d'expression par rapport aux finances, explique la planificatrice financière à la Banque nationale. Cynthia Laventure émet toutefois quelques bémols. Les qualifications ne sont pas gages d'une vidéo fiable, car il y a aussi des professionnels qui font de mauvaises vidéos. La solution réside, selon elle, dans la sensibilisation du public. Moi, où je mettrai l'accent, c'est en termes d'éducation des gens, souligne Mme Laventure. Jointe par la presse, l'AMF a assuré par courriel poursuivre en continu ses activités de mise en application des lois envers les finfluenceurs et affirme avoir intenté plusieurs poursuites en ce sens. Différentes initiatives en éducation financière ont également vu le jour, dont des présentations enquêtes éducation financière dans plusieurs cégeps auprès de jeunes, précise-t-on. C'était Les pros de la finance face au flot de conseils du web, un dossier de Mégane Foy paru le 10 mai 2026 dans la presse.
Les fans de la victoire vibrent aussi. Un texte de Marie-Ève Maurras, paru le 13 mai 2026 dans la presse. La victoire de Montréal a obtenu sa place en finale de la Coupe Walter. Tout juste avant le match qui l'y a conduite, on sentait aux abords de la place Belle à Laval que la fièvre des séries au Québec ne se limite pas qu'aux seuls Canadiens. Les Poulains, Stacy et Ambrose, font elles aussi vibrer leurs fans. Il y a un autre match de hockey à Montréal que celui de la victoire? C'est pas grave, ça. François Croteau était à Laval mardi le 12 mai 2026 pour encourager son équipe. Il allait bien entendu regarder le pointage du match qui se déroulait en même temps au centre-ville de Montréal, mais tenait à être au match de la victoire. « Si on n'est pas là, elle ne joue pas », dit le détenteur d'abonnement saisonnier. Les Canadiens? C'est pas d'eux qu'on parle aujourd'hui, dit en riant Anne Breton. Elle avait beau porter un chandail de la victoire, elle venait de s'en acheter un autre, une édition des séries, pour prouver qu'elle était là en 2026. Elle dit qu'en série, on sent l'énergie. La femme de 30 ans ne s'intéressait pas au hockey avant l'arrivée de la victoire. « Honnêtement, je ne le suivais pas, le Canadien », dit-elle. Une amie lui a transmis le virus du hockey féminin et depuis, elle répand la bonne nouvelle. Le groupe d'amis avec qui elle assiste au match ne cesse de grossir. Anne Breton souligne que les joueuses de la victoire sont de beaux modèles. « Ça me donne envie de les encourager », dit-elle. Tout comme elle, Janelle Marsan n'avait pas d'intérêt pour le hockey avant que la Ligue professionnelle de hockey féminin, LPHF, n'arrive au Québec. Une paire de billets de la victoire reçus en cadeau a tout changé. « Je suis tombée en amour avec le sport », dit-elle. Elles n'ont pas volé de la clientèle des Canadiens. Elles m'ont juste gagné. « Je peux au moins m'identifier aux joueuses », dit Janelle Marsan. « J'associais ça à un sport d'homme avant. Je trouve ça vraiment le fun depuis ce temps-là. » Lily Gomez allait assister à son premier match et ne demandait qu'à attraper la fièvre du hockey féminin des deux amies qui l'accompagnaient. « J'espère que ce n'est pas aussi brusque que les gars, parce que les gars, ça fait mal. C'est quasiment rendu du football », dit-elle. La meilleure ambiance. Ils étaient nombreux à dire combien la victoire est accessible à toutes les bourses, mais aussi à louanger l'atmosphère des matchs à domicile. Je suis allé voir le Canadien, le Rocket, et je vais vous le dire, c'est la meilleure ambiance, tranche François Croteau. Depuis que la Ligue existe, il y a une grosse effervescence pour le hockey féminin, ajoute-t-il. Marie-Hélène Poulain portait son chandail de l'autre Poulain, Marie-Philippe. Je n'ai aucunement les mains et le patin de Marie-Philippe, dit la matrice. Au match de la victoire, elle apprécie la participation de la foule, l'animation. Le jeu est vraiment bon, dit-elle. C'est une ambiance plus familiale, c'est respectueux, ajoute Madame Poulain, qui dit qu'elle aime voir des gars dans la foule qui tripent sur le sport féminin. Comme d'autres, elle allait regarder le pointage du Canadien pendant la soirée. Il faut que la victoire gagne. C'est pas vrai que je vais avoir manqué une game du Canadien, dit-elle en rigolant. L'avenir lui a donné raison. La victoire l'a emportée 2-1 contre le Frost du Minnesota. Karine Duhamel était accompagnée de ses jumeaux, Émile et Charlotte, 6 ans. « On est toujours ici à chaque match », dit la mère. « Pas à chaque match », objecte son fils. « Vous, non, mais moi, oui », dit-elle en riant. La détentrice d'abonnement saisonnier dit qu'elle suit la victoire depuis les tout débuts. « On n'en parle pas assez », dit celle qui joue elle-même au hockey dans une ligue récréative. Quand on leur demande ce qui est leur joueuse préférée, les jumeaux se consultent, puis choisissent Marie-Philippe Poulain. Leur mère dit que l'attaquante Abby Roque a été pour elle une grosse révélation cette année. Autant on la détestait avant, je trouve que c'est un bon ajout et on a appris à l'aimer dans toute sa combativité, dit-elle. Anne Breton, elle, a cité la défenseuse Cathy Tabin comme favorite. On ne peut pas ne pas nommer le duo Marie-Philippe Poulain et Laura Stacy, dit-elle, en mentionnant aussi Erin Ambrose, excellente sur la glace. À ses côtés, son amie, Lily Benko, ajoute le nom de la défenseuse Jessica Di Girolamo. Quand j'étais petite, je regardais le Canadien. J'ai joué au hockey aussi, mais j'ai perdu complètement mon intérêt pour le Canadien, dit-elle. Comme pour plusieurs personnes rencontrées mardi, la victoire a ravivé chez elle la flamme du hockey. On se reconnaît, dit-elle. C'était « Les fans de la victoire vibrent aussi ». Un texte de Marie-Ève Maurras paru le 13 mai 2026 dans la presse.